Collective, l'émission qui explore les questions féministes. Tous les deuxièmes et quatrièmes jeudis du mois, à 18h, sur Fréquence 7.
Le monde est en train de se recomposer avec des femmes qui osent dire stop ou qui osent dire je veux une vie égale à toi.
Qu'est-ce qu'on a tous comme responsabilité collective pour que ça arrive? C'est ça dont on parle. Si vous voulez, les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société, c'est nous, c'est nos amis, c'est nos pères. C'est ça qu'on doit regarder.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la collective. Aujourd'hui, dans les studios, il y a Elodie. Salut Elo.
Salut.
Alizé.
Salut Vanessa.
Et on est ravis d'accueillir Lucille, qui fait aussi partie du collectif féministe du 8 mars, et qu'on retrouvera en fin d'émission. Salut Lucille.
Salut.
Le 23 novembre dernier, à Aubenas, comme dans beaucoup d'autres endroits, nous nous sommes réunis pour parler de violences sexistes et sexuelles. Le collectif, allié à l'association La Fougue, à la Bibli Féministe, à la Cantine Populaire et à Sarah pour l'autodéfense, avait mis en place plusieurs ateliers pour penser et agir contre ces violences. Alors on commence par un immense merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à préparer et à faire vivre cette journée, avec un merci tout particulier à la Bibli Les Lunes, dont on va entendre ici quelques lectures. Et puis on va commencer en écoutant la prise de parole qui a débuté cette journée.
Donc on va vous dire quelques mots avant de vous laisser manger. Donc cette année, la journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles s'inscrit dans un contexte particulièrement réactionnaire et meurtrier. Les conflits font rage en Palestine, au Soudan, en Ukraine, au Liban, au Congo, et le viol continue partout à être une arme de guerre. Si on resserre la focale sur la France, cette journée arrive au moment où se clôture le procès des viols de Gisèle Pélicot, qui nous a forcés collectivement à regarder en face la banalisation du viol dans notre société. La violence patriarcale s'exerce partout, à l'encontre des femmes, des enfants et des personnes LGBTQIA+. Elle s'exerce dans nos maisons, sur nos lieux de travail, nos lieux d'études, dans la rue, les transports, dans les établissements de soins, les lieux de culture, les loisirs. Face à ce constat, il est nécessaire d'agir à différents niveaux. Ce que réclament les organisations féministes et syndicales, c'est une loi cadre intégrale, c'est-à-dire un texte législatif large, inspiré par celui mis en place en Espagne, prévoyant un certain nombre de mesures et de nouveaux droits, comme par exemple un congé d'urgence en faveur des victimes de violences conjugales, afin que les personnes puissent effectuer des démarches. Les idées sont là, le gouvernement doit enfin écouter les organisations. Et en face de cela, fournir les moyens de mettre en œuvre ces nouvelles mesures, c'est-à-dire un budget de 2,6 milliards d'euros. Mieux protéger les victimes doit être une priorité. Mais pour cela, et pour faire disparaître les violences, les solutions ne résident pas dans un simple durcissement de l'appareil répressif de l'État, qui a tendance à reproduire les inégalités sociales à l'œuvre dans notre société. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles passe par l'éducation, par la lutte contre la précarité et pour l'émancipation de chacun et chacune. Les personnes les plus touchées par ces violences sont celles rendues vulnérables par leur situation économique et ou par les discriminations qu'elles subissent en tant que femmes victimes de racisme, migrantes, sans-papiers, handicapées. L'orientation sexuelle et affective et l'identité de genre sont aussi des facteurs de vulnérabilité. Lesbiennes et bi, personnes trans sont particulièrement exposées. Lutter contre les violences sexistes et sexuelles aujourd'hui, cela veut donc dire lutter contre les politiques d'austérité et le détricotage de notre modèle social. Lutter contre les politiques et idées d'extrême droite qui nous disent que certaines vies ont plus de valeur que d'autres. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles est un travail de longue haleine et doit s'inscrire dans une perspective de changement de société profond. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire en attendant la fin du capitalisme, bien au contraire. Le travail de transformation se mène au quotidien et par des actions concrètes. C'est ce que défend le collectif du 8 mars dans ses actions tout au long de l'année, avec notamment la mise en place d'une cagnotte destinée à soutenir les victimes de violences sexistes et sexuelles.
J'ai mis longtemps à me dire victime de violences conjugales. J'ai mis longtemps avant d'avoir de l'empathie pour les autres victimes. C'était pas mon histoire, c'était pas à moi que ça arrivait. Moi, ça avait rien à voir. Moi, j'étais quelqu'un de fort, une battante. Je voulais ni qu'on s'apitoie, ni qu'on me plaigne. Je voulais pas que ça me change. J'ai mis encore plus de temps à me dire que mon histoire, qui n'est pas celle des autres, avait quand même l'air de répondre au même mécanisme, au même schéma, aux mêmes hontes. J'ai pas porté plainte. J'étais en sécurité une fois partie. On n'avait pas d'enfants ensemble. Il n'avait rien abîmé chez moi qui puisse être réparé avec de l'argent. J'avais des papiers qui ne dépendaient pas de lui. Et puis surtout, pourquoi faire? Je voulais surtout pas être connue comme victime de quoi que ce soit. Et lui, quoi? On allait le soigner, on allait l'enfermer, juste, et après? Ce qui est sûr, c'est que toute l'énergie que j'ai mise à ne pas penser à l'avant ne m'a pas empêchée d'être hantée par toutes ces questions. Comment je peux continuer sans reproduire la même histoire? Et lui, mais surtout, et elle, celle d'après, est-ce que ça va recommencer encore et encore?
Merci Élodie. Même si chaque histoire est différente, on peut observer que dans les situations de violence conjugale, des mécanismes sont à l'œuvre et se reproduisent par cycle. Ce sont toutes ces choses qui font que la personne victime ne peut pas sortir de ce cercle vicieux si facilement, et que la personne violente peut recommencer, encore et encore. Écoutons Louise Delavier de En avant toute nous expliquer le cycle de la violence.
Le cycle des violences, c'est un cycle qu'on peut repérer dans chaque cas de violence au sein du couple. Au départ, un couple qui se met ensemble, tout va bien. On est très heureux, on partage énormément de moments, c'est parce qu'il y a ce moment de bonheur que les violences peuvent s'installer. Ensuite, on va commencer à observer un climat de tension. Ça va être l'agresseur qui va dire à la victime, qui va commencer à la menacer par exemple. Il va péter un câble pour des petites choses. Il va lui reprocher des choses. Du côté de la victime, ça fait qu'elle a peur. Ça fait qu'elle commence à se demander si elle ne pourrait pas changer un petit peu pour correspondre à ses attentes. Elle voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La deuxième phase, c'est l'explosion des violences. Donc là, ça va être les violences proprement dites. Par exemple, une crise d'insultes. Ça va être des menaces, donc des violences psychologiques. Ça va être des violences sexuelles, par exemple un viol. Ou des violences physiques, des coups. À ce moment-là, pour la victime, la tension, elle se relâche. Parce que la violence, elle a eu lieu, donc quelque part, paradoxalement, il y a moins cette tension-là et ça va un petit peu mieux. Mais la violence, elle a eu lieu. La troisième partie du cycle, c'est un moment de justification de la part de l'agresseur, où lui, il va lui dire pourquoi il a fait ça, mais jamais en disant la vérité, c'est-à-dire que c'est sa faute. Il va dire, par exemple, que c'était à cause de l'alcool, que c'était à cause de son travail. Il va employer des éléments extérieurs pour se justifier. Et la victime, en fait, de son côté, elle va ressentir une double culpabilisation. D'une part, parce qu'il lui dit que soit c'est la faute de l'extérieur, soit c'est de sa faute à elle. Et deuxièmement, parce qu'elle, elle a bien senti le coup venir pendant le moment de l'escalade de la tension et elle se dit qu'elle aurait dû agir autrement pour pas que ça n'arrive. Donc ça, c'est une période de justification qui fait beaucoup de mal aussi à la victime. Et la quatrième phase, la phase qu'on appelle de lune de miel, même si c'est beaucoup moins joli qu'une vraie lune de miel, c'est le moment où l'agresseur, il va faire en sorte que tout aille mieux. Donc il va par exemple faire des cadeaux, proposer un voyage. C'est aussi le moment où souvent les agresseurs, ils font mine de céder sur des choses qui sont attendues depuis longtemps de la part de la conjointe, par exemple un emménagement ensemble ou un enfant. Et donc c'est un moment où pour la victime, ça va mieux, et où elle va avoir beaucoup d'espoir en fait pour l'avenir. Sauf que le problème, c'est que le cycle, il recommence. Il recommence, il va de plus en plus vite dans le temps. Ça, au départ, un cycle, ça peut prendre un an, donc c'est plus dur à repérer, mais au bout d'un moment, ça peut prendre une semaine. Et en fait, ce qu'on constate aussi, c'est qu'au bout d'un moment, la phase dite de lune de miel, où ça va mieux, elle disparaît. Donc le cycle n'a plus que trois étapes, et c'est un moment souvent où les personnes, elles prennent conscience que ça va pas du tout, et où elles ont envie d'agir.
Il est important de se rappeler que ces cycles vont se répéter, qu'il y aura plusieurs allers-retours, des faux départs qui seront nécessaires avant qu'une victime de violence puisse faire une rupture totale. Le principe du cycle des violences permet aussi à l'entourage de comprendre que ce n'est pas qu'une question de volonté, et que la culpabilisation n'aide pas, et que le fait de partir n'est pas la fin du parcours de la combattante. Il n'y a pas de formule magique qui provoque le départ de la victime, mais le déclic peut advenir grâce à différentes circonstances. L'écoute de l'entourage ou d'un professionnel, un témoin de la scène de violence qui la rend plus réelle, la phrase prononcée par un enfant de la victime, la sensation d'avoir des perspectives accessibles en dehors du couple. Il faut garder en tête que la personne subissant des violences doit suivre un cheminement interne qui peut être long et que le soutien indéfectible de l'entourage ne peut être qu'aidant pour elle.
Ces violences et tout ce qui vise à soumettre une personne à une emprise existent aussi hors de la sphère du couple. Elles sont aussi présentes dans le monde du travail et des ressources existent pour se sortir de ces situations. Il est du devoir des employeurs de mettre tous les moyens en œuvre pour que cela cesse. et les syndicats et délégués du personnel sont de plus en plus formés et dotés de moyens pour venir en aide aux victimes, les accompagner dans leur parcours tout en préservant leurs droits. Nous vous donnerons les contacts des ressources locales sur le site. Nous rappelons aussi que ces violences existent partout, elles n'épargnent aucun milieu social, elles n'ont pas de frontières.
Il y a celles qui autour font avec. Il y a celles qui autour soutiennent de manière inconditionnelle. Il y a celles qui taisent. Il y a celles qui transmettent. Il y a celles qui hibernent. Il y a celles qui disent au bon moment, aux bonnes personnes choisies. Il y a celles qui survivent. Il y a celles qui en meurent. Il y a celles qui subissent, encore. Il y a celles qui soutiennent nos agresseurs, les caressent dans le sens du poil, les écoutent, les éduquent, soi-disant. Il y a celles qui baisent avec. Il y a celles qui les butent. Il y a celles qui expliquent. Il y a celles qui éduquent leurs fils. Il y a celles qui éduquent les fils des autres. Il y a celles qui ripostent. Il y a celles qui dénoncent. Il y a celles qui se battent. Il y a celles qui font avec. Il y a celles que ça bouffe de l'intérieur. Il y a celles qui ne lâcheront pas. Il y a celles qui ont peur. Il y a celles qui minimisent. Il y a celles qui écrivent des tribunes de merde. Il y a celles qui quittent l'hétérosexualité. Il y a celles qui veulent couper des bites. Il y a celles qui savent et se soutiennent sans faire de vagues. Il y a celles qui font des vagues, et heureusement. Il y a celles qui se réparent. Il y a celles qui imaginent un monde autrement. Il y a nous. On fait bien comme on peut. Si nous sommes des victimes, les agresseurs, c'est bien eux, et notre société qui cautionne. Ça n'a rien d'ordinaire, ça n'a rien de banal, ça n'a rien de normal.
Dans l'imaginaire commun, le violeur, c'est l'autre. L'inconnu, l'étranger, le pauvre, le fou. C'est une sorte de monstre qui n'a rien à voir avec nous ni avec nos proches. Il a fallu un long travail de la part des féministes pour qu'on commence à comprendre que les violences sont partout et qu'elles sont exercées dans la majorité des cas par des personnes proches, amis, conjoints, parents, etc. Pour faire reconnaître l'existence du viol conjugal, par exemple, il a d'abord fallu déconstruire l'idée que le corps d'une femme appartient à son mari. Si on peine à reconnaître les violences, c'est notamment parce qu'on baigne dedans depuis toujours, et ça s'appelle la culture du viol. On écoute Adèle Haenel au micro de Mediapart, qui parle des agressions qu'elle a subies de la part de Christophe Ruggia alors qu'elle était adolescente.
Je me permets de dire aussi qu'il ne s'agit pas de censure là, mais regardons les choses en face. Je veux dire, c'est parce que des livres sont produits massivement sur ce thème de la culture du viol, en fait, du fait qu'il faut enlever les femmes, qu'elles sont des objets qui n'ont pas de pensée. C'est parce qu'il y a ça que d'un coup, Ruggia, il peut se raconter à lui-même, c'est une histoire d'amour. Quand bien même moi, quand il vient se coller à moi, je me colle dans le bout du canapé, je m'enfuis, je veux dire. Il s'agit pas, il y a aucune ambiguïté, en fait, dans la situation présente. Il y a une ambiguïté parce qu'on a créé toute une histoire de ce que c'était. Que le rapport aux femmes, là je parle des femmes, je peux parler des enfants, je suis à l'intersection des deux. Donc, je veux dire, c'est pour ça qu'il faut questionner ça. Parce que c'est des façons, que les agresseurs peuvent se raconter toute une histoire romantique au sujet d'un truc qui n'est pas du romantisme, qui est de l'oppression, qui broie la vie de tellement de gens, tellement de femmes.
Ce que raconte Adèle Haenel, c'est comment la littérature romantise les agressions. Nos repères sont brouillés par les représentations médiatiques et culturelles. Si un petit garçon grandit en entendant dire toute sa vie que si une fille dit non, ça veut dire oui, il est possible que plus tard, il agresse sexuellement une femme sans forcément se rendre compte que c'est pas normal. Et la société se chargera de le conforter dans cette position, surtout s'il est blanc, de classe moyenne ou supérieure, et que la victime est sa compagne.
La culture du viol désigne aujourd'hui l'ensemble des idées reçues concernant les violeurs, les victimes et les viols eux-mêmes. Invariablement, ces idées reçues concourent à excuser les violeurs, culpabiliser les victimes et invisibiliser les violences sexuelles. Valérie Ray-Robert, dans Feu, abécédaire des féminismes présents.
Tu crois pas que c'est aller un peu trop loin, là? Taguer des banques, je veux bien, mais aller chez les mecs, tes potes sont un peu ouf, non? Lucie s'arrête, étonnée. Naïvement, elle avait pensé qu'il approuverait sans retenue l'idée d'aller démolir l'appartement d'un gars relou. C'est quoi le problème? Ça te pose pas de problème de péter des vitrines à tout va, mais par contre, l'appartement d'un gars qui a violé une copine, c'est plus compliqué moralement? Flo reste silencieux. Il n'arrive pas à expliquer pourquoi, mais oui, il trouve ça plus compliqué moralement. sans pouvoir mettre exactement le doigt sur ce qui le gêne. Ce qu'il n'ose pas dire, c'est qu'il pense que c'est dangereux de prendre au sérieux la parole d'une seule meuf. Ce qu'il pense en sourdine, c'est qu'il est totalement plausible que parmi les 5 copines de Lucie, l'une, voire plusieurs d'entre elles, mentent. Il n'arrive pas à l'admettre, mais au fond de lui, il trouve ça étrange. Presque impossible qu'autant de meufs aient été violées et se connaissent. Il y a un bug quelque part, ça tourne en boucle. Le viol, pour lui, c'est le parking désert. C'est le détraqué, le fou, le pervers ou le puissant. Persuadé que le viol est un crime grave, Flo pense donc qu'il est rare, plus rare que ce que Lucie semble lui dire. Il est gêné aussi parce que, même s'il connaît la théorie et qu'il est prêt à s'indigner publiquement, il trouve au fond de lui que c'est abusé de mettre sur le même plan les filles dont le copain a un peu forcé une fois et les filles qui se font violer dans la rue, dans le métro, dans le train. C'est vrai quoi, il a du mal à imaginer que ça soit le même traumatisme, la même galère. Mais il n'ose pas le dire à Lucie. Peut-être aussi parce qu'il a peur que s'il y a autant de violés, il doit y avoir beaucoup de violeurs. Et il croit dur comme fer que les gars des fois déconnent, insistent un peu trop, dérapent avec leur meuf, avec une meuf. Mais de là à les appeler violeurs, à leur demander des réparations, c'est pas comme s'ils avaient fait exprès de faire du mal à cette fille. Il pense qu'il faudrait juste mieux expliquer que dans ce cas précis, la violence ne résout pas grand-chose. Pendant que Lucie raconte, il essaie de se rappeler, il convoque ses souvenirs sur les plans cul qu'il a eus. Est-ce qu'il a toujours demandé? Est-ce qu'elles étaient toujours sobres? Enfin, il a encore le droit de baiser bourré, manquerait plus que ça. Il chasse ses souvenirs rapidement et a envie de changer de sujet, d'effacer le malaise. Il aimerait bien que Lucie ait autre chose à la bouche que le mot « viol ». Elle est comme possédée, ça lui fait peur. Il voudrait juste qu'elle redevienne comme avant.
Il y a dans notre imaginaire un violeur idéal, l'autre. Un viol idéal dans une ruelle sombre la nuit, et une victime idéale, blanche, discrète, dévastée. Dès qu'on sort de ce cadre, on a du mal à reconnaître la violence, à y croire, alors on minimise, on remet en question. L'affaire DSK est un excellent exemple de cela. Pour rappel, en 2011, une femme de chambre du Sofitel de New York, Nafissa Toudialo, a porté plainte contre Dominique Strauss-Kahn, alors directeur général du Fonds monétaire international, pour agression sexuelle, tentative de viol et séquestration. Un des éléments à retenir dans cette affaire, c'est que très rapidement, le témoignage de Nafissa Toudialo va être remis en question par nombre de personnalités françaises, et les arguments pour ne pas la croire vont être que c'est une femme noire, pauvre, ne correspondant pas aux critères de beauté en vigueur, alors que DSK est marié à Anne Sinclair et qu'il n'y a donc pas de raison qu'il agisse ainsi. Ce qui est vraiment méconnaître les mécanismes à l'œuvre dans le cadre d'une agression sexuelle. Parler de culture du viol, c'est donc à la fois reconnaître l'omniprésence des violences sexistes et sexuelles dans notre société et montrer qu'il existe une continuité entre la diffusion des paroles sexistes et le passage à l'acte des agresseurs.
Ainsi, la plaidoirie de l'avocat de Gisèle Pellicot, dont l'histoire est emblématique de l'imprégnation de la culture du viol jusque dans nos foyers, parle de l'enjeu sociétal derrière cette affaire. Les moyens de commettre un viol ne vont pas disparaître, dit maître Stéphane Babonneau. Ce qui doit en revanche changer, c'est l'idée ancrée dans un certain imaginaire masculin que le corps de la femme est un objet de conquête. Nul n'affirme que les hommes sont intrinsèquement toxiques, mais ils sont plus exposés au risque de violer que les femmes, et c'est en grande partie lié aux représentations dans lesquelles ils se construisent. Ce procès-là, dit-il, est bien le procès de la culture du viol, et cette affaire, sa parfaite, sa terrible illustration.
You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye?
En parlant du viol qu'elle a subi, Virginie Despentes écrit.
Parmi les réactions que le récit de mon histoire a suscité, il y a eu celle-ci. Et tu as fait du stop encore après ? Parce que je racontais que je ne l'avais pas dit à mes parents, de peur qu'ils me bouclent à triple tour pour mon propre bien. Parce que oui, j'ai refait du stop. Moins pimpante, moins avenante, mais j'ai recommencé. Jusqu'à ce que d'autres punks me donnent l'idée de voyager en prenant des amendes dans le train. Je ne connaissais pas d'autre moyen pour aller voir un concert à Toulouse le jeudi et un autre à Lille le samedi. Et à l'époque, voir des concerts était plus important que tout. Justifié de se mettre en danger. Rien ne pouvait être pire que rester dans ma chambre, loin de la vie, alors qu'il se passait tant de choses dehors. J'ai donc continué d'arriver dans des villes où je ne connaissais personne, de rester seule dans des gares jusqu'à ce qu'elles ferment pour y passer la nuit, ou de dormir dans des allées d'immeubles en attendant le train du lendemain. De faire comme si je n'étais pas une fille. Et si je n'ai plus jamais été violée, j'ai risqué de l'être 100 fois ensuite, juste en étant beaucoup à l'extérieur. Ce que j'ai vécu à cette époque, à cet âge-là, était irremplaçable, autrement plus intense que d'aller m'enfermer à l'école à prendre la docilité ou de rester chez moi à regarder des magazines. C'était les meilleures années de ma vie, les plus riches et tonitruantes, et toutes les saloperies qui sont venues avec, j'ai trouvé les ressources pour les vivre. Mais j'ai scrupuleusement évité de raconter mon histoire, parce que je connaissais d'avance le jugement. Ah, parce qu'ensuite t'as continué à faire du stop. Si ça ne t'a pas calmé, c'est que ça a dû te plaire. Puisque dans le viol, il faut toujours prouver qu'on n'était vraiment pas d'accord. La culpabilité est comme soumise à une attraction morale non énoncée, qui voudrait qu'elle penche toujours du côté de celle qui s'est fait mettre, plutôt que de celui qui a cogné.
Ce qu'on trouve puissant dans l'extrait du livre « King Kong Theory » de Queen Virginie Despentes, c'est qu'on y trouve la liberté donnée à toutes celles qui ont été victimes de viols et violences de se définir, de se réapproprier leur manière d'écrire la suite. Pas forcément une injonction à la résilience, mais pas fatalement l'effondrement non plus. On y comprend que si le fait d'avoir traversé cette épreuve va laisser son empreinte, on n'est pas obligé en plus de se fader la liste exhaustive des attentes de la société par rapport à ce que doit être ou faire une victime pour être validée comme telle.
Mais en fait, j'ai jamais pensé à la justice parce que, comment dire, il y a une violence systémique qui est faite aux femmes dans le système judiciaire. Et ça, c'est aussi ça dont je pense qu'il faut parler. C'est qu'en fait, moi, je crois à la justice, mais il faut que la justice, elle parle de toute la société. Quand on voit à quel point les femmes sont méprisées, je veux dire, c'est pas moi qui l'apprends, ça. Hein. Je veux dire, dans le système judiciaire où, peut-être Marine pourra le dire mieux que moi, mais dans les situations de, par exemple, de violences sexuelles ou de viols, c'est 1 viol sur 10. C'est bien ça sûr. Qui aboutit à une condamnation en justice. Ça veut dire quoi des 9 autres? Ça veut dire quoi de toutes ces vies, en fait?
Ces classements sans suite, c'est un échec, puisque les victimes ne sont pas reconnues comme telles par la justice. De plus, ce système pénal reproduit, voire exacerbe les inégalités existantes dans la société. On l'a dit, les violences sexistes et sexuelles n'épargnent aucun milieu. Mais pourtant, la quasi-totalité des hommes condamnés pour ces violences sont ceux issus de milieux modestes ou de l'immigration. Il y a peu de chances d'arriver à faire condamner un homme riche ou puissant, encore moins s'il est les deux à la fois. Et si condamnation il y a, elle ne sera pas du tout appliquée et vécue de la même manière. La prison comme réponse au viol paraît donc contestable, et les faits semblent nous donner raison. Au vu de la fréquence des récidives, il est primordial de se poser cette question de l'intérêt des peines telles qu'elles sont appliquées aujourd'hui. La prison ne répare pas, elle sanctionne. Bien sûr, mettre à l'abri les victimes dans l'urgence et leur permettre d'être reconnues comme telles est essentiel, mais c'est pas suffisant. Est-ce que le fait d'enfermer sans soigner, sans accompagner, va amener des résultats ? Est-ce que l'enfermement, dans un milieu où la violence est exacerbée, facilite la prise de conscience et la reconstruction ?
Une fois qu'on a fait ce constat, quelles sont les perspectives qui s'offrent à nous ? On parle de plus en plus de justice restaurative, de justice transformative. Faisons un point là-dessus en nous appuyant sur le livre de Gwenola Ricordo, « Pour elles toutes, femmes contre la prison ». À la fin de ce livre, dont on vous conseille la lecture, elle nous invite à prendre conscience que le système pénal n'est pas un horizon indépassable, même si beaucoup de barrières existent. Le grand principe à la base de ces différentes pistes, c'est de refuser le face-à-face pénal entre victime et auteur, au profit de la médiation, de la réconciliation et de la guérison tant de la victime que de la communauté. La justice restaurative ou transformative, on va revenir sur les différences, s'est inspirée de ce que mettent en place depuis très longtemps différentes communautés qui n'espèrent rien du système pénal car elles en sont les premières victimes. Par exemple, les personnes homosexuelles ont été criminalisées jusqu'à très tard aux États-Unis. Il était donc impossible pour elle de se faire reconnaître comme victime d'agression par la justice américaine. Les communautés gays et lesbiennes ont donc créé des outils de justice alternatifs. Ce sont donc des démarches qui ont été pensées en dehors et en parallèle du système pénal. Aujourd'hui, certains de ces dispositifs se développent au sein même du système. C'est le cas de la justice restaurative, dont on peut voir des exemples dans la fiction « Je verrai toujours vos visages » de Jeanne Herry. L'exemple le plus connu, c'est l'organisation de rencontres entre agresseurs et victimes. Il y a deux modèles pour cela, soit les agresseurs rencontrent leurs victimes directes, soit d'autres victimes.
Ça, c'est donc la justice restaurative. Après, il y a la justice transformative. Là, on sort carrément du système pénal, et ce sont des initiatives qui existent par exemple au sein de groupes militants. Ça part de l'idée qu'il y a une responsabilité communautaire si une agression a lieu, et qu'il faut donc que la communauté assume collectivement la réparation de ce qui a été abîmé. Ça repose sur quatre grands principes. D'abord, un soutien à la personne survivante, sa sécurité et son autodétermination. On encourage les victimes à exprimer leurs besoins, qui ne sont pas nécessairement les mêmes d'une personne à l'autre, et parfois ne collent pas aux attentes véhiculées par la société. Ensuite, on accompagne aussi l'agresseur dans la reconnaissance de sa responsabilité et son changement de comportement. Ensuite, au sein de la communauté, on fait évoluer les valeurs et les pratiques pour éviter que ça se reproduise. Enfin, à l'extérieur de la communauté, on lutte pour un changement de société, car on a conscience que les inégalités sociales favorisent l'existence des violences. La justice transformative, c'est donc un processus collectif. On considère que la responsabilité de l'acte ne peut être attribuée uniquement à l'auteur, mais doit être comprise comme un échec de la société. Ça ne veut pas dire que la victime est en partie responsable, ça veut dire que l'agresseur n'est pas une exception ou un monstre.
Si nous nous dissocions en tant que communauté des agresseurs en les stigmatisant, alors nous échouons à voir comment nous contribuons aux conditions qui permettent à la violence de se produire. Gwenola Ricordo, pour elle toute, femme contre la prison.
Concrètement, ça veut dire faire participer l'entourage, et notamment les hommes qui sont proches de l'agresseur, aux procédures de justice transformative, afin d'identifier les leviers de changement.
La justice transformative, ça nécessite une forme de bricolage, de réinventer sans cesse les solutions et de s'adapter à chaque situation. Et ça, ça demande beaucoup de temps et d'engagement. C'est bien là une de ses limites. On l'a dit, la justice transformative s'est développée dans des communautés qui ne pouvaient pas compter sur le système pénal. Or, ce sont souvent ces mêmes personnes, par exemple des femmes, des personnes racisées, des personnes LGBT ou des personnes précaires, qui vont subir la violence patriarcale et qui se retrouvent en plus à prendre en charge les processus de réparation en investissant plein de temps et d'énergie. Et puis, il y a deux autres limites majeures à l'efficacité de la justice transformative. D'abord, c'est que son succès repose en partie sur la bonne volonté de l'agresseur qui doit reconnaître le préjudice et s'engager à changer. Et l'autre gros frein, c'est que si ces pratiques sont adaptées au cadre d'une communauté ou bien d'un groupe militant, elles sont difficiles à mettre en place à grande échelle, et donc elles peuvent pas toucher la majorité des victimes. C'est notamment pour ça qu'en tant que féministe, même si on est contre le système pénal tel qu'il existe, on ne dira jamais à une victime de ne pas porter plainte. Cependant, on peut le dire, comme Gwenola Ricordo, que chaque fois qu'on a besoin de recours au système pénal, c'est que notre société a échoué à deux niveaux, empêcher l'agression et protéger les victimes.
Et force est de constater l'échec de notre société à ces deux niveaux. En atteste l'explosion des plaintes enregistrées pour violences sexistes et sexuelles, plus 282% entre 2018 et 2022. Face à cette réalité, 60 associations féministes, de protection de l'enfance, de juristes et des syndicats se sont penchées ensemble sur la question pour proposer une loi cadre intégrale. L'idée de cette proposition, c'est d'avoir une vraie politique publique, dotée de moyens suffisants, et qui lutte contre les violences à tous les niveaux, y compris en amont pour les prévenir, et en aval pour lutter contre la récidive et accompagner les victimes. Très concrètement, ça veut dire une politique publique qui touche au domaine de la santé, de l'éducation, de la justice. Un programme qui nous semble bien plus ambitieux et porteur que faire de la surenchère politique sur des peines de plus en plus longues. Comme la coalition le formule, il faut s'attaquer à la culture du viol et aux stéréotypes sexistes qui imprègnent l'ensemble des milieux sociaux et qui rendent possibles les passages à l'acte. Pour cela, il est essentiel de développer massivement les mesures d'éducation, de prévention et de formation dans tous les milieux, à destination des enfants comme des adultes. Les pouvoirs publics doivent prendre au sérieux la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants, en instaurant une véritable culture de la protection afin de construire durablement une société où la violence est rejetée.
Cette loi vise aussi à améliorer le parcours judiciaire des victimes de la plainte à la décision de justice, avec par exemple une meilleure formation des professionnels ou encore la possibilité pour les victimes de bénéficier d'un congé, nécessaire pour faire les démarches juridiques. Alors cette proposition, c'est pas l'horizon radieux de la justice transformative qui nous fait vibrer. Il y a un volet pénal important qui passe par la sanction des auteurs et la traduction possible par des peines d'enfermement. Oui, mais voilà, comme le dit Alizée, on va pas sortir du capitalisme en un jour, et en attendant les lendemains qui chantent ou les idées venues de la justice transformative auront infusé notre société, cette proposition nous paraît importante à défendre, dans la mesure où elle aura un impact très concret pour énormément de personnes victimes. Car ce n'est pas qu'une politique répressive, mais ça s'attaque de front à la culture du viol. Mais étonnamment, le gouvernement ne pense pas comme nous, et le 26 novembre dernier, il a refusé la proposition. Et voilà comment il s'indigne des violences sexistes et sexuelles le samedi, lors de la journée consacrée, pour envoyer valser les propositions d'avancer dans les jours qui suivent.
Face à ce gouvernement qui ne veut pas écouter nos voix, et si on ne veut pas passer par le système pénal, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, agir là, il nous reste de l'espace. C'est pour ça que pour le 23 novembre, cette année, on a proposé un atelier d'autodéfense, des lectures et une cantine de soutien à la cagnotte, dont Lucille, qui fait partie de la commission violences sexistes et sexuelles, va nous parler.
Oui, alors au collectif féministe du 8 mars d'Aubenas, on défend donc une position anticarcérale. Mais par contre, on veut que chaque victime puisse obtenir la reconnaissance du préjudice qu'elle a subi et aussi des potentiels traumas qui y sont associés. Donc en fait, si une victime sent que le fait de porter plainte va l'aider à sortir du silence, va l'aider à acter de façon publique le tort qui lui a été causé, pour pouvoir retrouver une forme de puissance dans cette situation et également être mise à l'abri vis-à-vis de son agresseur. Alors nous, on veut la soutenir pleinement dans cette démarche, même si on a conscience que la procédure judiciaire elle-même peut être une épreuve. Donc c'est pour soutenir les victimes qui portent plainte qu'on a créé cette cagnotte de solidarité, pour leur permettre de se défendre face à des agresseurs, parce que bien souvent, les agresseurs, ils ont davantage de ressources financières, en plus de profiter d'un système judiciaire qui est biaisé. Actuellement, en France, il y a de nombreuses victimes de violences sexistes et sexuelles qui renoncent à porter plainte, justement pour des raisons financières. Pour rentrer un peu plus dans le détail, une victime peut, en théorie, bénéficier de l'aide juridictionnelle de l'État. Donc c'est une aide qui permet de couvrir les frais d'avocat ou d'avocate. Mais les conditions d'éligibilité à cette aide juridictionnelle, elles sont très restrictives. Par exemple, si votre revenu fiscal de référence mensuel dépasse 1252 euros, donc même pas un SMIC, vous ne touchez que 25% de l'aide juridictionnelle, ce qui signifie que seulement 25% de vos frais de justice vous sont remboursés. La cagnotte qu'on a créée, elle s'adresse aux personnes victimes, qu'il s'agisse d'agressions verbales, d'agressions physiques, d'emprise psychologique ou de harcèlement, et que ces violences s'exercent dans la sphère privée, professionnelle ou publique. Donc vous pouvez être concerné par cette cagnotte si vous habitez le bassin d'Aubenas, et ceci quelle que soit votre nationalité et la régularité de votre séjour. Donc si vous souhaitez bénéficier de la cagnotte, que vous ayez droit ou non à l'aide juridictionnelle d'ailleurs, on vous invite à nous rencontrer. L'attribution de la cagnotte est anonyme et votre demande sera étudiée en fonction de votre situation et de la trésorerie disponible à ce moment-là dans la cagnotte. Si jamais, à l'issue du procès, vous étiez remboursé des frais de justice, on vous invite à reverser sur la cagnotte l'argent qui vous a été donné, afin qu'il puisse aider d'autres victimes. Mais bien sûr, en cas d'absence d'indemnisation suite au procès, rien ne sera reversé. Donc vous l'aurez compris, au cours de cet épisode, on appelle à une réforme profonde du système judiciaire et de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc pour le dire de façon simple, nous les féministes, on ne souhaite pas que les agresseurs souffrent horriblement pour payer le prix de la souffrance qu'ils ont infligée à d'autres personnes, parce qu'en fait ça ne sert pas à grand chose qu'ils souffrent horriblement. Mais ce qu'on veut par contre, c'est que les violences s'arrêtent tout simplement et qu'elles s'arrêtent maintenant. Et pour ça, on pense qu'il est plus judicieux de mettre l'accent sur la prévention et sur la réparation. Donc en vrai, on est plutôt sympas les féministes, même si généralement on essaye de nous faire passer pour les méchantes.
Merci Lucille. On ne peut pas faire ici la liste exhaustive des ressources, mais le numéro à connaître en priorité, c'est le 3919 si vous êtes victime, mais aussi si vous êtes témoin de violence. Et on vous mettra un peu plus de ressources sur le site de l'émission. On a une annonce au niveau local avant de se quitter. À l'occasion de la Journée internationale des migrants et des migrantes, le MRAP Aubenas appelle à un rassemblement le mercredi 18 décembre à 17h à l'Agora. Et elles appellent à mettre fin à cette obsession xénophobe et à respecter les droits de chaque personne indépendamment de sa nationalité, de son origine, de sa religion, de son orientation sexuelle et de genre.
Et on vous dit à l'année prochaine, et puis on va terminer 2024 avec, oh, surprise, les vulves assassines. On écoute Queen Kong et à l'année prochaine.
C'était La Collective, une émission du collectif féministe du 8 mars d'Aubenas, tous les 2e et 4e jeudis du mois à 18h sur Fréquence 7.
Qui va faire le ménage? Et la réponse des féministes est très bien selon moi, elle dit « mais la révolution fera le ménage ».